Nous sommes le mardi 10 octobre et j'ai encore chopé la crève. Ouais, c'est triste, mais au final, rien à secouer, car c'est l'heure du meilleur ami du petit déjeuner, j'ai nommé la revue de presse, j'y vais. Heureux, très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle revue de presse JV. Je suis un peu fiévreux ce matin, mais l'envie de vous livrer une belle édition me porte vers mon micro, et ce contre vents et morts vaunés. Bon allez, quand on atteint un tel niveau de vanne pourrave, je m'auto-scandalise même pour vous dire, c'est qu'il est temps, grand temps, d'enchaîner avec les premières news. Allez, c'est parti. Je vous avais parlé il y a quelques jours de cela, du grand ménage qu'avait opéré Steam sur plus d'une centaine de jeux, presque 200 d'ailleurs il me semble. Et d'ailleurs on s'était un petit peu étonné comme toujours, enfin s'étonner c'est un bien grand mot puisque Steam aime toujours laisser un petit peu la situation empirer et après venir jouer un petit peu les pompiers, mais on sait que voilà, ça manque vraiment énormément d'initiative et surtout de main humaine derrière pour faire un peu de curation et de modération digne de ce nom sur Steam où c'est quand même très souvent le chaos. La section pixel du monde.fr revient sur ce souci-là. C'est Corentin Lamy qui nous parle de ça avec un article titré « Sur Steam, du faux jeu vidéo qui peuvent rapporter gros ». Et dont l'article nous parle de cette volonté de Steam, une première, il faut le dire, cette volonté à lutter contre le phénomène des « faux jeux », entre guillemets. Corentin Lamy nous dit « À la mi-août, Valve, l'éditeur de la plateforme de vente de jeux vidéo Steam, confirme auprès du site Polygon se réserver le droit de ne plus distribuer, dans certains cas extrêmes, de clés de leurs propres jeux aux développeurs qui en feraient la demande. Puis, le 27 septembre, Valve explique avoir fait retirer 173 jeux de sa boutique, voilà, donc c'était 173, tous développés par la même personne, se cachant sous divers alias, dont celui de Silicon Echoes Studio. Quel rapport y a-t-il entre ces deux événements? Pour le comprendre, il faut se pencher sur l'histoire de celui qui est peut-être le développeur le plus prolifique du monde, Silicon Echo. Cet illustre anonyme est capable de publier 2 jeux par jour en moyenne, de faux jeux qui n'ont d'autre intérêt que d'enrichir leur seul et unique créateur. Le plus fort, ils n'ont même pas vocation à se vendre. Le papier donc nous déroule un petit peu le process de cet arnaqueur, il n'y a pas d'autre mot. Toujours est-il que la disparition de ces 173 titres tend vers une sorte de début de ligne éditoriale chez Valve, à voir ce que ça va donner à l'avenir. Donc je vous invite à vous ruer tout de suite sur Pixel, sur lemonde.fr, donc vous tapez sur Google Pixel avec un S au pluriel, lemonde.fr, et vous tomberez sur cette section remplie d'articles, ma foi souvent fort intéressants. Je me souviens également vous avoir dit, ça devait être au tout début de la revue de presse JV, du fait que j'aimais beaucoup ce que faisait Julien Chiez sur sa chaîne YouTube, Julien Chiez, donc ex-rédac chef de Gameblog, étant passé par Joypad, PlayStation Magazine et plein d'autres choses, et donc même si je n'appréciais pas toujours la ligne éditoriale qu'il avait donnée à Gameblog, et on en avait parlé sur Twitter, j'aime beaucoup sa chaîne, et là récemment, il a posté une vidéo qui est bien intéressante, que je vous conseille si vous vous intéressez à tout ce qui est backstage de développement. Julien Chiez a effectivement interviewé pendant plus d'une heure Jean-Baptiste Bongrand. Jean-Baptiste Bongrand qui vit au Japon et qui est animateur, un animateur qui a besogné sur de grands noms du jeu vidéo comme Zelda Breath of the Wild et Final Fantasy XV. Alors bon, Final Fantasy XV pour moi c'est un traumatisme, voyez-vous, mais ça n'en retire rien au talent du bonhomme. Donc je vous invite à aller voir cette interview qui est vraiment très intéressante. C'est vrai que sur la chaîne de Julien Chiez on trouve un peu de tout, alors tout ne me plaît pas forcément, mais très régulièrement on trouve quand même des vidéos très intéressantes, donc je vous invite vraiment à aller voir celle-ci, car c'est toujours très intéressant d'avoir, d'entendre, et surtout la parole de ceux qui font le jeu vidéo. Donc si ce type de contenu vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Malgré une réussite unanimement, ou quasiment unanimement en tout cas, saluée, le Hitman, vous savez, découpé en épisodes qui avait été signé IO Interactive, ou IO Interactive, prononcez comme vous voulez, n'avait pas empêché au studio de se faire kicker le cul par Square Enix pour se retrouver dehors. Mais, comme nous le dit Jarod sur Gamecult, désormais séparé de Square Enix, le studio, donc I.O. aura bientôt du neuf à proposer au sujet de son Hitman, licence dont il possède maintenant les droits. Ça, je sais pas si vous avez suivi, mais effectivement, ils ont gardé les droits dans leur besace, et ça, c'est super cool. La news poursuit. C'est le 24 octobre que les Danois dévoileront le nouveau contenu pour le jeu d'assassinat, en prenant soin de clarifier une chose. Pour ne pas faire gonfler inutilement les attentes, non, il ne s'agit pas de l'annonce de la saison 2. Alors ça, c'est un petit peu dommage, mais si ça peut encore enrichir cette excellente saison 1 dont ils nous avaient gratifié, bah écoutez, on accueille ça à bras ouverts, hein. Je ne vois pas d'autre attitude à adopter face à cette éventuelle bonne nouvelle. Attention cher auditeur, car là, en quelques secondes, je vais te balancer comme ça 3 news à la vitesse grand V. Prépare-toi, accroche-toi à ton slip, ça va déménager. Alors figurez-vous qu'on a appris que Fear Effect Senna est repoussé à 2018 et sortira sur Nintendo Switch. C'est jeuxvideo.com qui nous apprend ça. Fear Effect, hein, cette licence qui nous revient de la première PlayStation. Donc il va falloir encore attendre un petit peu pour mettre la main sur ce jeu d'action tactique, sexy câlin et tout plein de promesses. Super Mario Odyssey, dont la sortie se rapproche à grand pas le 27 octobre. On n'en peut plus, on n'en peut plus de l'attendre. On a appris que diverses petites options étaient dédiées aux joueurs un peu moins expérimentés afin de les assister au mieux pour qu'ils puissent profiter d'une expérience de jeu agréable. Donc comme je vous en parlais il y a 2 ou 3 jours, tout ça reste dans la philosophie qui a déjà été initiée avec Super Mario World. Donc ceux qui ont envie de râler là-dessus, je les laisse râler. Moi je trouve ça tout à fait normal, puisque ça a toujours été la philosophie de Miyamoto et désormais de ses disciples. Gears of War 4. Alors qui s'en soucie encore, je ne sais pas, mais en tout cas, sachez que le jeu va fêter sa première année et pour récompenser les joueurs, The Coalition, le studio derrière ce 4e épisode qui n'a pas soulevé les foules, j'ai l'impression, en tout cas c'est mon ressenti. The Coalition donc prépare quelques cadeaux à l'intention des joueurs, nous dit jeuxvideo.com. Des récompenses qui sont tombées dès maintenant, avec une session de double XP pour les modes Horde et Versus qui durera jusqu'au 16 octobre, mais aussi l'apparition, seulement ce mois-ci, de skins dorés dans un pack à 400 crédits. À la demande générale, nous dit jeuxvideo.com, le mode Boltok doré fait son retour et The Coalition conclut en annonçant que d'autres surprises seront dans les cartons pour le jour J. Je vous tiendrai bien évidemment au courant, on est professionnel ou on ne l'est pas. Une petite news comme ça rapidement sur Cuphead. Alors Cuphead, le jeu de plateforme qui ressemble au dessin animé des années 30. Une merveille vraiment visuelle, mais qui fait rager beaucoup de joueurs de par sa difficulté extrêmement élevée. Et bien figurez-vous que Cuphead cartonne au point, visiblement, de carrément se placer en deuxième place derrière PUBG ou PUBG, enfin, je sais pas comment vous l'appelez, enfin vous savez, PlayerUnknown's Battlegrounds, le jeu de Battle Royale, le phénomène dont on parle déjà depuis plusieurs émissions, et bien Cuphead se situe juste en dessous PUBG en ce moment sur Steam, tellement ça cartonne, ça race. J'aimerais savoir, car beaucoup d'entre vous le possèdent, visiblement, est-ce que cette difficulté vraiment hyper élevée, pour vous, ça ne ferme pas le jeu à un public plus large? Moi, c'est ce que je pense, car visiblement, le mode facile ne donne pas accès, si j'ai bien compris, à l'intégralité du jeu. Est-ce que vous trouvez ça dommage? Moi, j'aurais préféré qu'il y ait plusieurs niveaux de difficulté. Alors, c'est pas la première fois que je vous parle de ce souci, mais j'attends d'autant plus de témoignages de votre part, car je trouve un petit peu triste que tous les joueurs ne peuvent pas s'y adonner. Je vois par exemple, le jour où j'aurai le jeu, je sais que mon fils de 7 ans sera complètement subjugué par cette esthétique. C'est normal, il a bon goût comme son père, n'est-ce pas? Mais alors, même si pour son âge, il est plutôt bon, là, je pense que c'est insurmontable pour lui, et c'est bête quelque part qu'il ne puisse pas lui aussi en profiter. Je sais même pas si ça peut même pas à un certain niveau réfréner certaines personnes. Bon, visiblement, ça n'empêche pas le jeu de se vendre copieusement, et tant mieux, vu le travail abattu, c'est amplement mérité. Enfin voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires un peu partout, comme d'habitude. Le remake 3D de Secret of Mana, l'un des hits intergalactiques de la Super Nintendo, cet action RPG absolument fantastique qui s'appelle Seiken Densetsu 2 au Japon. Alors, je sais pas si je prononce bien, mais enfin vous savez, voilà, c'est le matin, c'est la fatigue, c'est tout ça, mais c'est le bonheur, c'est la passion. Bref, le remake de l'angoisse, c'est comme ça que l'appelle jeuxvideo.com sous la plume de Anagund. Donc cet action RPG vu de dessus, jouable jusqu'à 3 simultanément, super, méga, giga, magique, poétique à mort, et bref, que du bonheur quoi, va revenir en 3D. Et c'est vrai que les premiers screenshots, les premières vidéos faisaient un petit peu peur. Et là donc le journaliste de jeuxvideo.com s'est essayé visiblement à une démo du jeu, et ça, apparemment, ça le fait fouetter du calfouette quoi, je vois pas d'autres mots. Donc il nous dit « Secret of Mana, en trois mots, tant de souvenirs impérissables ressurgissent en nos mémoires, environnement magnifique, combat légendaire et musique inoubliable, ce RPG de Squaresoft sorti en 1993 est sans aucun doute un des plus fiers représentants de l'apogée 16 bits. Bien conscient de la popularité de ce chef-d'œuvre d'antan, celui qu'on appelle aujourd'hui Square Enix a décidé d'en faire un remake 3D pour 2018 pour les 25 ans du jeu. Bonne nouvelle ? Pas sûr. Faire un remake est toujours un pari risqué. Si l'annonce du retour d'un jeu de légende remis au goût du jour fait toujours son effet, les joueurs restent des êtres particulièrement exigeants quand on touche à leurs souvenirs les plus chers. Et si les bons exemples sont nombreux, le remake de Resident Evil éclipsant sans peine l'original par exemple, on n'est jamais à l'abri d'une erreur de casting. Autant être direct et concret, après y avoir joué, nous avons bien peur que ce soit le cas de Secret of Mana. Dans l'esprit, ce remake reprend plan pour plan l'original, ce qui en soi n'est pas nécessairement un mal, mais je le confirme. On commence donc avec la scène où le héros Randy, vous pouvez changer les noms, n'ayez crainte, essaye de passer une cascade sur un tronc d'arbre avec deux de ses amis. Premier changement d'importance, tous les dialogues sont doublés, anglais et japonais, et premier choc, le doublage anglais est catastrophique. Non seulement la plupart des acteurs sonnent faux à chaque phrase, mais on a vraiment l'impression qu'ils lisent tous leurs textes plus qu'ils ne les jouent. Effet immédiat, cela donne un côté cheap à l'aventure qui ne va pas s'arranger par la suite. Il faut dire que visuellement, ce remake n'est clairement pas à la hauteur des espérances des joueurs. Comme précisé auparavant, l'original était à la pointe, proposant des décors absolument éblouissants pour l'époque, avec une incroyable diversité. Du pixel, oui, mais du beau. Là, je reconfirme, Squaresoft avait sur 16 bits parmi les plus beaux graphismes de l'époque, enfin bref. Retournons dans l'article. Une prouesse aux antipodes de ce remake 3D au style chibi, vu et revu. Certes, le chibi n'est pas un défaut en soi, mais la pauvreté de l'inspiration en matière de décor et de design des monstres est affligeante. On a l'impression d'être devant une sous-production sur mobile, et le jeu arrive juste au niveau des remakes de Final Fantasy 3 et 4 sortis il y a une dizaine d'années sur Nintendo DS. Et encore, il n'a même pas leur charme. Quand on voit le travail réalisé sur World of Final Fantasy par exemple, on se dit forcément que Square Enix pouvait faire mieux. Un constat qui se confirme définitivement face au travail sur les animations d'une mollesse insoutenable, le jeu ayant perdu toute sa vigueur. Écoutez, j'ai même pas la force de lire le reste, et puis de toute façon je vous laisse le plaisir de lire cet article. Alors, visiblement le journaliste de jeuxvideo.com a été traumatisé par cette présentation. Moi, Secret of Mana, c'est l'un de mes jeux préférés, et j'avais déjà montré un petit peu de méfiance par rapport à ses premières images, et c'est vrai que tout de suite il y a eu des levées de boucliers sur internet. Ah non, mais regardez, c'est normal, c'est mignon, etc. Non, je le répète, effectivement Secret of Mana à l'époque c'était du beau pixel art, mais vraiment magnifiquement réalisé, et c'est vrai que ce remake 3D méritait une direction artistique, une réalisation, une production à la hauteur du mythe qu'est Secret of Mana. Pour ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu, il faut bien s'imaginer que c'est un mythe qu'est, au même titre que les plus grands Final Fantasy, finalement. Donc c'est vraiment dommage de voir Square Enix, visiblement, parce qu'on s'avance vers ça, c'était ma crainte. Je ne dis pas que le rédacteur de jeuxvideo.com qui a essayé cette démo fait office de parole d'évangile, certes, mais enfin, là, vraiment, les infos semblent quand même nous mener vers une possible déception, voire une petite cata. Ce qui est dommage avec un titre aussi mythique que Secret of Mana. Là, je ne vois pas pourquoi Square Enix saccage une licence aussi légendaire, c'est le cas de le dire. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Moi, ça me fait sérieusement flipper. Et voilà, c'est déjà fini, mais on se retrouve demain, même heure, peu avant 7h, pour une nouvelle édition de la revue de presse JV. Où nous écouter, ou conseiller à vos proches, à vos amis, à vos ennemis, d'aller nous dénicher pour nous écouter. Donc il y a iTunes, PodCloud, YouTube. YouTube, c'est sur ma chaîne chez Bruno, c'est HEZ_Bruno. Vous pouvez venir me causer sur Twitter, @revuedepressejv, tout collé. Sur Facebook, la revue de presse JV, on trouve ça très facilement. Sur mon compte Twitter perso, c'est HEZ_Bruno, chez Bruno, vous l'aurez compris. Partagez un maximum, c'est très très important de mettre des étoiles sur iTunes et des petits commentaires sur iTunes également. Je vois que certains ont commencé à le faire, je vous remercie chaleureusement, continuez comme ça. N'oubliez pas aussi le blog, la revue de presse jvpowerpress.com, tout collé, où là vous trouverez tous les liens, tout, et plus encore, pour profiter un maximum de cette émission qui, je l'espère, ce matin vous a encore ravi. Je vous souhaite un bon courage pour votre journée et je vous dis donc à très bientôt, c'est-à-dire demain. Et moi, je m'en vais rapidement me prendre tous mes cachetons et mon café et repartir comme il faut du bon pied pour vous offrir une nouvelle édition digne de ce nom demain matin. Allez, bye bye.